Voilà qui conclut Mission Encre Noire cette semaine, le tome 37, le chapitre 407. J'ai eu le grand plaisir de recevoir en première partie d'émission...
Les productions Nuit d'Afrique vous invitent au gala de la 16e édition des Silidor de la musique du monde. Rendez-vous le jeudi 27 avril au La Tulipe à partir de 20h.
Faites partie de l'aventure. Venez soutenir vos artistes favoris pour leur faire remporter les Silidor d'or, d'argent et de bronze.
Cette vitrine musicale révèle chaque année des artistes talentueux.
Les Silidor d'or de la musique du monde, c'est le prix du public qui fait grandir le monde.
Pour plus d'informations, silidor.com.
Bonjour, c'est Ariane Roy. Vous écoutez choc.ca.
Bonsoir et bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones. Ah là 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 là, épisode 224. Déjà l'épisode 224. Isabelle, est-ce que tu t'en rends compte qu'on est déjà rendu à l'épisode 224?
Je réalise à peine.
Depuis que je regarde avant de commencer, c'est un malin plaisir de nommer le numéro d'épisode.
C'est assez flabbergastant, je vais être franche, là.
Ouais, ben, puis c'est sûr qu'on a été moins à jour, puis meilleur coup de pas aux personnes qui nous écoutent, ça a pas été une année facile, là. Je vais résumer ça de cette façon-là. Ça a pas été une année facile, mettons. Ceux qui vont peut-être, celles et ceux qui vont réécouter les épisodes récents vont peut-être entendre que je me plains souvent que c'est pas une année facile, mais moi, je suis juste contente d'être encore là, presque 7 ans plus tard.
C'est ça que je te disais, ça va faire sept ans.
En octobre que le podcast des Amazones existe.
C'est incroyable, il y a des relations qui t'offrent moins longtemps que ça.
Écoute, il y a des gens avec qui j'avais promis de faire des projets que depuis je vois plus.
Et c'est tout un cycle d'allergie aussi.
C'est vrai ça?
Le cycle d'allergie, c'est 7 ans.
J'ai entendu ça.
Oui, des fois t'es allergique, 7 ans de temps, puis là, oups, c'est fini, terminé. Je peux manger des amandes.
Sais-tu qu'est-ce qui se modifie aussi avec le temps?
Quoi?
Notre relation aux cheveux.
Oh mon Dieu, tell me about it.
Ben c'est ça parce que t'as eu une révélation par rapport à tes cheveux, puis ça m'a fait découvrir un monde que je connaissais pas du tout en fait par rapport au type de cheveux.
Écoute, moi, tout dans ma vie s'explique sur du très long terme. Dit la fille qui a comme assumé qu'elle était queer à genre 32. Pour vrai, c'est pour moi c'est le même procédé avec mes cheveux. Ça a pris beaucoup de temps avant que je me découvre.
Avant que t'arrêtes d'être straight.
Pardon? J'ai quand même compris la fin de la joke, donc je la ris. C'est très drôle.
Merci. Je suis très fière.
Donc, comment je dirais ça? À la vie comme au lit, je ne suis plus straight.
Ben voilà. Donc maintenant, tu tiens le cheveu frisé.
Oui, je suis rendue une ondulée. 2A, 2B si je me force. Ça, c'est les niveaux de curl dans les cheveux, les niveaux de boucle. Et c'est ça. Toutes mes amies... mes amis Facebook noirs avec des cheveux frisés connaissent toutes les lettres de un 4C, un 3B, connaissent tout le bouclage. Fait que là, ils sont tous venus me féliciter d'être dans la gang.
Moi, je suis allée justement lire, parce que j'ai regardé les commentaires, je suis allée lire là-dessus, puis j'ai fait comme, ben moi, je pense que je suis un. C'est sûr, je te dis.
Ouais, c'est ça, il n'y a pas de level de à quel point tes cheveux frisent pas, mais pour le frisou, il y a des niveaux. Donc, c'est ça, c'est tout un monde, toute une culture qui s'ouvre à moi. Et je suis très contente de faire partie de ce groupe.
Ben, écoute, puis en fait, c'était une réflexion que je m'étais faite quand j'ai lu ça. En fait, je me suis dit, hey, Isa, c'est vraiment une personne, pour moi, qui est comme un modèle. Là, je vais le dire, puis là, ça va peut-être rire un peu, ça va peut-être avoir l'air bizarre. Mais tu sais, des fois, les gens nous perçoivent d'une certaine façon, tu sais. Puis là, moi, j'étais comme, pour moi, Isa, c'est un modèle de self-care.
Oh, mais c'est donc bien fin.
Mais parce que, genre, mais tu sais, quand je veux dire self-care, genre, c'est comme... Tu connais plein d'affaires qui servent à prendre soin de soi.
Oui.
Mais, tu sais, comme, mettons, au-delà de, genre, bois de l'eau, là.
Oui, mais j'ai pas un gros cercle social non plus. Hein. Je passe beaucoup de temps là-dessus. Mais, ouais. Mais la preuve, en fait, qu'on peut apprécier de prendre soin de soi et de prendre soin de son apparence, de faire des choses pour son bien-être à soi, hein, pas pour les autres, pour soi-même, et quand même apprendre des choses à 37 ans
mm-hmm.
sur son soi-même.
Ben, on finit jamais d'apprendre.
Toujours en découverte.
Effectivement.
C'est ça. À ce temps, la mousse coiffante est mon amie. J'essaie de la prendre sans aérosol pour épargner ma nature. Mais no way que je vais me priver de ces savoureuses bouclettes.
Ben écoute, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Moi, j'ai passé mon adolescence à me boucler les cheveux au fer. Puis aujourd'hui, j'ai plus le temps. Mais c'est ça. T'sais, je me rappelle de conversations qu'on a eues où est-ce que tu m'expliquais comment prendre soin de ma peau puis tout ça.
Puis c'est vrai, on a parlé de ça.
Puis en bonne TDAH, comme dit le docteur, je sais plus quoi, là, que je trouvais ça bien intéressant, là, mais que c'était comme le TDAH, it's not a lack of knowledge, it's a lack of intention.
Oui, complètement.
Genre, tu sais ce que tu dois faire, mais tu n'as pas de volonté de le faire.
Non.
Fait que voilà. Mais je devrais m'y remettre, là, parce que là, ma peau, ça n'a pas de bon sens.
Écoute, puis, le printemps, c'est toujours une bonne saison pour se remettre aux soins de la peau, car la température change et le niveau d'hydratation aussi. C'est tout ce que j'ai à dire.
Mais puis parlant de self-care, okay, parce que c'est là que je m'en allais avec tout ça, la raison pourquoi est-ce que j'ai commencé à écouter The White Lotus, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai vu passer un post de Safia Nolin qui parlait de self-care, puis qui disait que l'affaire qui lui faisait du bien dans la vie, c'était en ce moment, elle avait comme une liste de choses, puis il y avait entre autres écouté un épisode de White Lotus. Puis là, j'étais comme, ah, ben ça doit être drôle! Puis c'était pas drôle, mais c'était divertissant, et ça a été très agréable à écouter quand même, mais ça, tout ça est parti d'une volonté, en fait, pour moi-même, de faire, ah, je vais rire! Je vais commencer à écouter une série pour rire! Et j'ai pas ri, j'ai ri jaune un peu.
Ben, considérant aussi le niveau de mélancolie de Safia Nolin en général, si elle trouve quelque chose de divertissant, ça se pourrait que ça soit pas du slapstick, claquage de cuisses puis des amants dans le garde-robe.
Je comprends.
Toutefois, oui, il y a des moments cocasses peut-être, que drôles.
Mm-hmm.
Ouais, mais ça reste un excellent divertissement.
Avec des dialogues impeccables aussi.
Oh mon Dieu, tout à fait. Dialogue très, très bien écrit. Vraiment.
Donc, moi, j'ai binge-watché, en fait, pendant le temps des fêtes, la série de White Lotus. Donc, la saison 1, la saison 2. J'ai tout écouté d'une shot, là. J'ai dit tant des fêtes début janvier, je sais plus trop, là, dans ce coin-là, parce que je savais qu'on allait en parler aux Amazones. La vie étant ce qu'elle est, on en parle 5 mois plus tard.
Ben oui.
Donc, là, j'ai tout plein d'onglets d'ouvert parce que je me rappelle presque de rien. Mais. J'aimerais qu'on commence peut-être en mettant en contexte. Donc, cette série, donc premièrement, bien évidemment, c'est une série télévisée. Donc, on parlait d'épisodes et tout ça. Donc, une série qui a commencé en 2021. Une série qui compte donc 2 saisons pour l'instant, avec une 3e saison qui va arriver sous peu.
Et qui sera la dernière, semble-t-il.
C'est ce que je semble lire parce que sur IMDb, ça dit 2021-2023. Donc, ça semble annoncer effectivement que la 3e sera la bonne. On pourra en reparler plus tard, mais des fois, il vaut mieux partir sur un succès que d'étirer la sauce.
Il faut partir en pleine gloire.
Effectivement.
La déesse du self-care a parlé. Il faut partir en pleine gloire.
Et voilà, donc 2021-2023, donc une première saison qui compte 6 épisodes, une deuxième saison qui en... Six épisodes et une deuxième saison qui en compte 7. Donc, The White Lotus, dans la première saison... C'est simplement donc un hôtel luxueux situé à, tu vas le dire dans 2 secondes, parce que j'ai le goût de dire Hawaï, mais je suis même plus sûre si c'est ça.
Oui, il semblerait que c'est ça. Moi, dans mon souvenir, c'était ça.
Bon, ben voilà. Donc, à Hawaï, un hôtel très luxueux où les gens arrivent par bateau même, là, tellement est-ce qu'on veut rendre ça. Ils arrivent par bateau comme dans
Ils n'ont pas tant de choix, je pense, d'arriver par bateau de toute façon, parce qu'à Hawaï, c'est compliqué.
C'est compliqué. Mais surtout que c'est une multitude d'îles.
Oui, exact. C'est donc, compliqué d'arriver.
Il n'y a pas un aéroport. Oui, c'est ça, sur chaque île.
Que par bateau de certains spots.
Ben voilà, alors, t'as cette bande de gens-là, donc on comprend qu'il y a des arrivées de bateaux probablement quotidiens, mais on va suivre donc les tribulations de cette cohorte-là de gens qui vont passer une semaine sur cette île paradisiaque pour relaxer de leur vie bien compliquée états-unienne. Et vont rencontrer aussi par la bande des personnes qui travaillent à l'endroit. La saison, ce qui semblait être donc un seul hôtel, on découvre dans la saison 2 en fait que c'est une chaîne d'hôtels.
C'est comme un genre de Club Med, mais plus.
Ouais, j'avais pensé à un genre de Hilton. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Peut-être que Club Med, c'est plus englobant comme expérience.
Ben, Hilton, c'est des chaînes d'hôtels. Tu peux très bien aller dans un Hilton et qu'il n'y ait absolument rien de tropical et paradisiaque. Et...
Effectivement. Enfin, je comprends ce que tu veux dire par Club Med. Donc,
non, ils vendent une expérience.
Ben oui, effectivement, ils vendent l'expérience. Puis il y en a pour qui leur expérience, ce qu'ils se sont fait vendre, c'est pas la même chose. Et ça crée beaucoup de péripéties qui se terminent dans le sang. Donc, divulgateur en vue, trigger warning en vue aussi. Donc, c'est une série qui parle de... qui est sous ses aspects, en fait, justement, ludiques ou satiriques, va adresser plein d'enjeux, dont des enjeux de racisme, des enjeux au niveau de la classe sociale, dis-je, des enjeux aussi au niveau des relations toxiques qu'on peut entretenir. Il y a des personnages qui vont être misogynes, qui vont être vils, qui vont être méchants, mais c'est une série qui adresse quand même une certaine complexité. Il y a peu de personnages, je pense, qui sont complètement... dans une question manichéenne méchante. Là. Il y en a quelques-uns à qui je pense, mais un, mettons.
Ouais, mais vraiment, en effet, c'est souvent plus complexe que ça. Là,
c'est dans les nuances de gris.
Tout à fait.
Mais cette série, donc, qui dans le fond de ce que je lisais, la première saison tournait beaucoup au niveau de la relation avec l'argent.
Oui.
Et la deuxième saison va tourner beaucoup au niveau de la question de la sexualité.
Oui.
Mais de la sexualité puis de l'excès. Mais dans les deux cas, on parle d'excès, en fait, parce qu'on parle de quand même de grands problèmes de riches, là, donc la misère des riches dans les deux cas.
On parle de tourisme aussi. Le tourisme, c'est quand même un luxe. On a tendance à l'oublier dans ce monde d'Instagram et de voyages à rabais, mais le tourisme, ça reste un privilège. Et avec le tourisme... inévitablement, on va adresser des questions classe, tant qu'à moi, là. Surtout par le fait que, bon, même avec un statut de classe moyenne dans notre pays à nous, si on arrive ailleurs, on n'est pas nécessairement... on est les riches de quelqu'un d'autre, en fait. On fait quand même partie d'une société où on est dans les pays les plus riches au monde, là,
ouais,
au Canada,
ouais.
Là. En moyenne, là.
Oui, effectivement. Non, mais t'as raison.
Je veux pas. C'est sûr que ce problème-là va être adressé. Puis avec le tourisme vient toujours la notion d'excès. C'est un peu drôle qu'on en vienne à parler, mettons, de White Lotus aujourd'hui, parce que moi, récemment, j'ai commencé un nouveau travail et au sein d'une chaîne d'hôtels et de restos. Donc, le tourisme, ça fait partie comme de ma vie en ce moment. Et les touristes, c'est des gens qu'on veut faire sentir spéciaux parce que c'est ça le but du séjour. Mais des fois, quand t'es pas chez vous, tu deviens quelqu'un d'autre. Et ça, c'est tout le monde. On devient vite une autre personne.
Est-ce qu'on devient tout ce qu'on se permet pas d'être?
Des fois, prendre des vacances à l'étranger, c'est aussi prendre des vacances de notre propre vie. Dans la première saison, c'est quand même assez fascinant parce qu'on suit le parcours d'une famille, entre autres, de quatre, d'une mère qui est une workaholic invétérée.
Qui n'est pas capable d'arrêter de travailler pendant ses vacances.
Elle n'est pas capable d'arrêter de travailler pendant ses vacances. Elle manque comme...
Elle passe son temps à l'hôtel.
Elle manque tout.
À l'hôtel dans sa chambre, dis-je.
Littéralement, elle manque toutes ses vacances.
Bien sûr.
Puis c'est comme la contrepartie de cette histoire-là, parce que comme tout le monde est occupé comme à essayer d'être autre chose, puis à essayer de décompresser, elle n'est pas là-dedans du tout. Fait que tout le monde a l'air de vraiment avoir des vacances excitantes comparé à cette madame-là.
Oui, je voulais juste être sûre d'avoir la bonne personne, mais je trouve pas sa face. Mon Dieu, c'est sûr qu'elle doit être dans les tops, là. C'est celle qui a joué dans toutes.
Oui, c'est une de celles qui a joué dans toutes.
Puis là, je la trouve pas. Je me sens mal. Mais ça doit être parce que c'est ça qui arrive hein, quand c'est une série qui a trop de... Connie Britton.
Oui.
Qui joue donc Nicole Musbacher.
Oui.
Donc, qui est la matriarche donc de cette famille et qui est en relation avec un homme qui va avoir une évolution en fait de sa situation, parce qu'au début de ses vacances, il est super stressé parce qu'il attend un diagnostic, puis finalement va apprendre que il a pas le cancer.
Oui, exact.
Mais ça va le libérer. On aurait cru que, tu sais, comme ça va le libérer, puis ça va aussi le rapprocher. Il va vouloir se rapprocher de sa famille à travers cette expérience-là, jusqu'à ce qu'on commence à parler de l'enjeu de colonialisme. Et là, donc, peut-être que ce personnage qui le redevenait attachant, mais c'est beaucoup ça, hein. C'est beaucoup ces strates de pouvoir-là. Puis c'est, en fait, c'est vraiment l'histoire des privilèges, comme tu le dis, parce que tu parlais de privilèges quand on est touriste, mais c'est que on passe notre temps à voir des gens qui sont en situation de pouvoir, pouvoir économique, pouvoir autoritaire, mm-hmm. parce qu'ils sont les boss de la place ou les coordonnateurs de la place ou parce qu'ils ont un levier politique ou un levier, ben je dis politique, mais politique dans l'hôtel.
Ouais.
Mais on passe notre temps à voir des personnes qui vont tantôt être attachants, tantôt être vont nous faire pitié, on va root pour ces personnes-là.
Complètement.
Puis il va arriver un événement où est-ce qu'on va faire comme « Oh my God, cette personne-là est complètement aveugle de son privilège qu'il est en train d'imposer à quelqu'un d'autre. »
Exact.
Puis il va se justifier par sa détresse, il va se justifier. Et j'ai trouvé que c'était une série qui nous permettait, en fait, de comprendre cette notion-là, je pense. Parce que autant que, par exemple, le personnage de... Et là, son nom m'échappe. Oh,
moi,
tous
les noms vont m'échapper constamment. Je vais référer à leur job.
Ben, c'est parce que je voulais lire avant, mais finalement, on parlait, puis c'était vraiment intéressant. Mais la journaliste, mais là, dont le nom ne me vient pas, c'est sûr que c'est dans cette branche de personnes-là. Est-ce que ça dit quelque chose? Ah oui, voilà. C'est le personnage de Rachel, en fait, qui est la femme... La nouvelle mariée.
Oui, celle qui est en voyage de noces.
Celle qui est en voyage de noces.
Puis qui, en fait, est complètement annihilée par son chum et sa belle famille.
Ben oui, dans le fond, qui où est-ce qu'elle comprend qu'elle sera une trophy wife?
Oui, elle est comme dans une prison dorée, là. Puis là, elle vient de se rendre compte qu'elle a fait une grosse gaffe.
Puis, mais une des scènes les plus puissantes, je trouve, de cette série-là, parce qu'on prend pour elle, on a envie qu'elle se libère de sa cage dorée. On a envie qu'elle soit capable de sortir, de s'affirmer, puis de prendre des décisions pour elle-même et tout ça. Et du moment où est-ce qu'elle va aller se plaindre, en fait, de sa situation à Belinda, qui est la personne qui tient le spa.
Oui.
Belinda, donc, qui durant toute la saison, va se faire miroiter un projet entrepreneurial duquel elle va travailler très fort, mais elle s'associe avec la mauvaise personne.
Tout à fait.
Donc, l'impulsive Tania, qui va donc voir son rêve volatilisé vers la fin de la saison et qui était réellement pour elle une façon de sortir de sa situation, de sa classe sociale.
Tout à fait.
Donc, lorsque Rachel va être en pleurs et que Belinda va aller à son écoute, et qu'elle va donc en ellipse temporelle, mais on comprend qu'elle lui a résumé tout ce que nous, on a vu, et que Belinda fait juste faire « Nope », et va se lever, et va quitter. J'ai trouvé que c'était très puissant, parce que c'était comme... Ça disait pas à la personne... Elle lui a pas fait un grand discours pour la convaincre que ça avait pas de bon sens. Elle a juste fait « Je ne prendrai pas la charge mentale ou la charge émotive de ta souffrance ». Moi qui essayais de me sortir d'une classe sociale difficile, puis toi qui se fais miroiter, dans le fond, cette cage dorée-là.
T'as tes problèmes. Si c'est ça ton problème, gère ton problème. Tout le monde est... C'est un peu... Tout le monde est un peu responsable de son affaire, au final.
Ben, c'est la question de la dynamique. En plus, dans ce couple-là, tu sais, je veux dire, c'est une dynamique, ça se travaille à deux, fait que ça s'entretient, tu sais.
C'est qu'en fait, on voit... Ben, en fait, comme on a, nous... le spectateur, juste cette semaine-là, dans notre mire, on voit pas la dynamique avant, mais on devine que ça, c'est comme l'apogée de tout le machin, puis que ça s'est monté en épingle au fur et à mesure. Mm-hmm. Puis je veux dire, moi, c'est genre le personnage du chum, moi, c'est genre de personne qui m'horripile profondément dans la vie. Fait que en même temps, j'ai 37 ans, j'ai vécu ce que j'ai vécu aussi, là. Je veux dire, je suis moins impressionnable que je l'étais, disons ça.
Mm-hmm.
Mais tu sais, je le regardais faire, puis j'étais comme, mais mon Dieu, comment tu peux développer des sentiments pour quelqu'un d'aussi exécrable?
Mm-hmm.
Vraiment, drapé dans son univers de petit gars riche, c'est insupportable.
Mais il y avait cette notion-là. Je pense que quand elle fait son speech pour essayer de le laisser, c'est quelque chose comme ça qu'elle dit. Elle lui dit « J'étais pas dans une bonne passe, puis tu me faisais miroiter tout ce que je voulais. »
Oui, c'est ça, tout plein d'affaires, puis une belle vie, puis moi, je me suis pas posé de questions.
Oui, j'étais juste heureuse que tu me regardes, tu sais.
Puis c'est ça, le petit gars qui est pas très habitué de se faire dire non, avec une mère très, très présente.
Oui.
qui est somme toute un bon comic relief, parce qu'en plus, c'est une comédienne comique très, très... C'est Molly Shannon qui joue le rôle de la mère. C'est une comédienne de SNL que moi, j'aime beaucoup. Petit comic relief, mais en même temps, complètement terrifiante. Cet univers-là, puis on sent qu'elle, en fait, le Rachel, n'est pas du tout dans cette classe sociale-là non plus au départ.
Ouais, c'est une transfuge de classe.
Fait qu'elle s'est comme laissée embarquer parce que, c'est ça, tout le monde se laisse séduire par cette affaire-là. Puis au final, elle se rend compte qu'elle est prise au piège. C'est très anxiogène. Il y a beaucoup de situations très anxiogènes, hein, d'ailleurs, dans cette série-là. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, l'anxiété...
Non, c'est vraiment, c'est cringe.
On va se le dire.
Puis aussi, c'est des situations de... Tu sais, littéralement des situations de suspense, là. Tu sais, il y a littéralement des situations de comme... Tu sais, j'ai dit que ça finissait dans le sens, c'est que aussi, c'est que toutes les saisons, les deux saisons, mais ça commence, on sait qu'il y a des gens décédés. Dans la première saison, le premier épisode, on sait qu'il y a un corps qui est rapatrié.
Dans la deuxième aussi, c'est
non,
ça?
Mais non, dans la deuxième, il y a un petit twist, c'est qu'ils disent on a trouvé des corps.
Oui, c'est vrai.
Fait que c'est ça.
C'est ça.
Genre, dans le fond, c'est une semaine plus tôt. Puis là, on voit toute la semaine se dérouler.
Exactement. Puis, c'est une belle structure, d'ailleurs, pour raconter une histoire. C'est bien joué. je vais faire un saut de coq à l'âne encore, parce qu'on est bonne là-dedans, là. Mais on parlait de dynamique de pouvoir tantôt, même au sein de l'hôtel.
Oui.
Les gens qui sont pas nécessairement qui sont pas des privilégiés et qui travaillent là, même entre eux, il y a des hiérarchies qui font qu'ils sont prisonniers de plein d'affaires. Je pense juste à la pauvre fille qui est enceinte.
Ah, ça, quel punch!
Ça, c'est de l'anxiété, guys. Parce que elle se met à être en travail, genre épisode 2, là, une affaire de même.
Ben, l'épisode 1.
C'est pas même premier épisode,
oui,
exact.
Oui. Et... c'est juste qu'on voit qu'elle file pas.
Oui.
Puis on comprend pas.
On comprend pas.
Puis elle file pas. Puis là, plus ça va, plus on est comme, elle file pas. Puis là, elle perd ses os.
Exactement. Une petite bonne femme chubby qui a caché sa grossesse à tout le monde, visiblement. Et là, elle est en train d'accoucher live.
Première semaine de travail.
Et elle doit faire sa journée et sa semaine.
Non, elle fait pas sa semaine.
Elle la fait pas, mais au départ, c'est ça le plat.
Ouais, c'est ça.
Je veux pas perdre ma job, je veux pas être dans marde, j'ai besoin de ce job et cet argent. Donc, je vais continuer mon chiffre.
Ce qui est pas nécessairement... éloigné de la réalité américaine.
Absolument
en fait.
Pas, non.
Parce que, tu sais, on a quand même un système de protection avec le RRQ au Québec, au Canada. On a quand même des protections par rapport à ça. Mais j'entendais des vieux reportages de Last Week Tonight, où est-ce qu'on voyait justement des femmes qui disaient « j'ai accouché, puis le lendemain, je suis retournée travailler, parce que j'ai pas ça, moi, un congé de maternité. »
Ils peuvent pas se permettre d'arrêter, non, c'est ça.
Puis, pour vrai, moi, quand j'ai accouché, j'ai pas été capable de marcher. Premièrement, j'ai pas été capable de marcher comme faux un mois et demi avant mon accouchement. J'ai pas été capable de marcher comme faux cinq semaines après mon accouchement. Mm. Fait que c'est comme deux mois et demi à peu près, genre où j'étais à mobilité très réduite.
Oui, c'est une invalidité.
Puis je serais incapable de. Tu sais, mettons, suite à cet accouchement-là, comme je dis, j'étais pas capable de marcher. Je me serais même pas vue être capable. Tu sais, je veux dire, j'ai commencé à fonctionner. Comme mon cerveau commençait à compute, là, on me donnait des informations de ce qui s'était passé, comme mettons, dans les 24 dernières heures, je comprenais rien. J'ai commencé à fonctionner comme le jour 3, je pense, là. Où est-ce que là, je me rappelais, c'est comme mon conjoint était là, puis il était comme « Ah, mais telle personne qui est venue te parler », je suis comme « Non, mais non, mais tu as parlé, là, vous avez une discussion. » Non, j'étais tellement fatiguée, j'étais tellement épuisée.
C'est intense, un accouchement, là, je veux dire.
Mais c'est ça. Fait que là, t'as cette personne-là, pendant que t'as des gens qui se plaignent parce qu'ils n'ont pas la bonne chambre, parce que la vue est pas aussi belle qu'ils pensaient, parce que c'est pas arrivé assez vite telle affaire, mais pendant que t'as ça, t'as cette personne-là qui est comme, faut que je travaille malgré le fait que je suis en travail.
Oui, exactement.
C'est
Oh non, c'est capoté.
Ça met le ton.
Oui. Oui. En fait, puis en fait, c'est, je pense que c'est un des plus grands tours de force esthétique de cette série-là. Ça reste quand même d'être capable de nous transmettre toute cette anxiété-là dans un décor paradisiaque où les gens sont supposés se reposer et supposés en avoir zéro, moins deux, moins six d'anxiété.
Mm-hmm.
Et tout le monde panique. Je pense que c'est vraiment ça, le tour de force. C'est pas reposant des vacances, finalement. C'est ça, c'est une des morales de l'histoire, là.
C'est, non, crissement pas, parce qu'en plus, t'as la pression de dire, faut que je fasse tout squeezer ça en une semaine.
Mm-hmm.
Puis en une semaine, faut que je solidifie mon couple. Faut que je décide si je me divorce. Faut que j'accumule plein d'informations. Faut que je fasse un voyage, un pèlerinage.
Ouais, toutes les questions, en fait, que tu te poses pas quand t'es dans ta vie parce que tu roules puis ça va vite.
Mm-hmm.
Là, t'es en vacances, y a rien à faire, t'es pas chez vous. T'as juste ça à faire penser à ta vie.
Mm.
C'est un peu intense, tu sais. Puis c'est vrai que ça nous met dans cette situation-là. Moi, je me rends compte que je suis quelqu'un qui aime pas tant les vacances parce que à un moment donné, je commence à trouver ça long.
Mm.
Puis c'est peut-être ça un peu, c'est cette espèce d'anxiété de « OK, là, il faut que je réfléchisse à moi-même puis ça me tente pas de faire de l'introspection. Là. J'aimerais juste ça être capable de tirer à la plug. » Mais il y a bien des gens pour qui c'est pas possible. Dans White Lotus, il y a aussi cet esprit de, justement, il y a des gens qui sont là pour se trouver,
mm-hmm.
qui font des voyages qui sont pas nécessairement spirituels, mais pas loin. Tania en fait partie.
Tania, c'est intéressant parce qu'elle, elle veut se libérer de sa mère.
Ouais, elle est là pour se réparer.
Mais finalement, tu sais, sa première étape, c'est d'aller se caser avec quelqu'un. Tu sais, oui. Elle se libère de sa mère, elle se trouve un mari à la fin de la semaine, tu sais.
Ça, puis je veux dire, elle fait miroiter des affaires à la pauvre madame aussi qui veut se partir sa business. Pis,
ben oui.
Puis tu sais, d'un point de vue complètement égoïste, comme seule une Américaine blanche qui débarque avec beaucoup d'argent peut l'être parfois. Parce que je veux dire, aider quelqu'un à démarrer une business, c'est supposé d'être, quand t'as des sous, c'est supposé d'être quelque chose qui est, oui, je comprends l'enjeu capitaliste et tout, mais tu sais, il y a quand même une espèce d'altruisme d'en dire, je crois en ton projet puis je vais t'aider. Et là, on voit tout l'égoïsme que le capitalisme peut générer dans ce personnage-là, qui en fait s'est acheté une amie à qui se confier pendant ses vacances.
Ben, c'est ça.
En disant, je vais t'avoir ça. Puis la pauvre femme qui est réellement en détresse financière et son pattern de vie n'est pas reluisant pour la suite, là. Elle est prise en otage là-dedans, là.
Ben oui, parce que tu sais, puis je pense qu'elle n'a pas pris des personnes clientes parce qu'elle se faisait miroiter.
Exact.
Qu'elle allait avoir de quoi à la fin de tout ça. Fait que tu sais, c'était intéressant parce qu'il y avait comme une notion. Puis probablement que ça en dit beaucoup aussi sur le fait que, ben, probablement que Tania, ce qui intéresse les gens, c'est son argent. C'est le fait que c'est une héritière, en fait, qui la rend intéressante. Fait que c'est probablement comme ça qu'elle a développé le fait, ben, les gens, quand ils me veulent, ils veulent mon argent. Puis si je veux quelqu'un, ben, il faut que je fasse miroiter cet argent-là. T'sais.
Le personnage est d'une complexité folle. Puis chapeau à Jennifer Coolidge qui mérite tous les prix qu'elle a gagnés pour ce rôle.
Moi, le moment où est-ce que... Genre, elle dit dans saison 1, tu sais, elle rencontre son futur mari, tu sais. Puis qu'il dit qu'il travaille pour le BLM.
Oui.
Puis qu'elle est comme, Oh my God, he's working for Black Lives Matter. Puis je suis comme, OK, c'est tellement far-fetched, mais c'est tellement drôle. Comme, tu sais, c'est là que tu voyais comme, OK, elle est kind of, genre pas, est moins, comment je pourrais dire, il y avait une couple d'affaires aussi qu'elle a dit dans le premier épisode que j'étais comme, elle a l'air de la personne dépassée, mais elle est pas si dépassée.
Non.
Elle est overwhelmed, mais elle est pas dépassée.
C'est une personne qui a un, tu sais, quand on dit des fois les gens, ils ont un bon fond, là, c'est quelqu'un qui a un bon fond.
Pas tant de malice, elle a pas de malice.
Non, elle a pas de malice, elle veut juste être heureuse. Mais elle sait pas comment.
Non, c'est ça.
Puis il y a quelque chose de naïf dans le personnage que je pense que ça, si ça avait été joué avec plus d'appui, ça aurait pas passé. Coolidge, elle nous le présente de manière très, très sincère et vulnérable.
Mm-hmm.
Alors que ça aurait pu être une grosse niaiseuse de qui on se moque.
Ouais.
On n'a pas envie de se moquer d'elle. On voit qu'elle fait des choses terribles aux gens autour d'elle. Mais justement, elle n'a pas de malice. est plutôt démunie, en fait, face à beaucoup d'affaires. Probablement parce qu'elle a manqué d'amour quand elle était jeune.
Ben oui.
Fait que c'est beaucoup de causes à effet qui fait qu'on n'est pas capable de détester le personnage. On comprend d'où elle vient, mais en même temps, est-ce qu'elle est correcte 100% du temps? Absolument pas. Est-ce qu'elle mérite ce qui y arrive? Pas souvent. C'est bien étrange. Moi, j'ai trouvé ça complexe comme bonhomme.
Oui, oui, oui.
Ça m'a vraiment gardé accroché beaucoup.
Ben, et là, quand j'ai écouté The White Lotus, comme je vous dis, je les ai bingés. Faisons un à deux. OK?
Elle a bingé, la fille.
Je l'ai bingé. Puis là, quand j'étais en train d'écouter la saison 2, quand j'allais commencer la saison 2, ma mère de me dire, le spoiler, là, si vous voulez l'écouter, arrêtez d'écouter là, OK? Revenez dans 5 minutes. Ma mère de me dire, c'est tellement un bon personnage. Mais elle l'a fini, la saison 2, là. Elle l'a fini, là.
Oui.
Puis là, elle me dit, c'est tellement un bon personnage. Ils ont un personnage qu'ils pourront pas tuer. Fait que là, moi, j'écoute la saison 2. Puis je me dis, elle va pas mourir.
Ils vont pas nous enlever Tanya.
Parce que de toute façon, ma mère m'a dit quelque chose. Puis genre, c'est ma mère, j'y fais confiance.
Ma mère, elle m'a dit que j'avais les cheveux raides, hein, toute ma vie. On la salue. She was so wrong.
mais c'est pas pareil, parce que she didn't know better.
Oui, exact.
Pourquoi elle m'a dit ça? C'était-tu pour me mener en bateau? Pun intended? Parce que...
C'était un peu le pire bateau, elle te l'a pointé en plus.
Oui!
Tu sais, toi, tu l'as cru parce que c'est ta mère. Tout ça est terrible.
Non, mais elle m'a dit... Ils ont un personnage tellement fort, ils pourront jamais la tuer. Et j'étais comme, ah, fait qu'elle est sûrement en train de me hinter qu'elle est là dans saison 2 puis qu'elle risque d'être là comme dans les prochaines saisons.
Que nenni, guys.
Tanya meurt! Puis là, ce que je me rappelle pas, par exemple.
Ouais.
Parce que là, c'est ça que j'essaie de me rappeler pendant qu'on parlait, là. Parce que tout le long de la série, on nous fait miroiter, en fait, que les perceptions de Tanya sont erronées.
Oui.
Elle a des perceptions erronées, des intentions des gens, des fois par rapport à comment est-ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, des fois par rapport à comment elle reçoit de l'information. Mais des fois, c'est un peu touché parce que nous, en tant que spectateurs, quand on nous montre quelque chose que Tanya voit, est-ce qu'il nous montre la perception de Tanya ou est-ce qu'il nous montre la réalité?
Il nous montre la réalité, mais comme nous, on est convaincus que la perception de Tanya, c'est pas la bonne, on n'ira jamais avec la perception de Tanya. Et à un moment donné, il y a une dissonance cognitive. Quand, à un moment donné, dans la saison 2, je me suis dit, mais ça se peut pas que ça soit en train d'arriver parce que, voyons, ils sont fins avec elle, puis toutes sont gentils, les hommes sur le bateau avec elle. Ils veulent pas tirer avantage d'elle. Qu'est-ce qui se passe? Et là, au fur et à mesure qu'on a des indices qui rentrent, je fais, mais oui, mais danger.
Danger, ouais.
Et Tanya, à un moment donné, se dit à elle-même « danger ». Et c'est là que moi, j'ai fait « mais non, c'est sûr que c'est pas un danger
».
Tu vois, moi, j'ai été menée en bateau par ce scénario-là parce que je me disais, du moment qu'elle va dire quelque chose, moi, il faut que je pense son contraire parce que c'est ça qu'on nous a habitués à faire toute une saison et trois encore.
Mm-hmm.
Et là, soudainement, on nous donne une autre info. Puis là, elle a pinpoint exactement ce qui va y arriver.
Ben oui.
Et nous, on est comme « mais non, c'est sûr que c'est pas ça ». Parce que c'est elle qui l'a dit. It's so good. Sérieux, c'est de la bonne écriture, là. Mais, tu réussis ça, là. Wow.
Mais est-ce que c'était son mari qui les avait engagés, finalement? C'est ça que j'arrive pas à me rappeler.
Moi, je pense qu'on va avoir cette clé-là dans saison 3.
Ben, c'est ça. OK, c'est pour ça que je le sais pas. C'est parce que c'était
non,
pas clair.
Non, c'est parce que c'est pas clair. Mais moi, je pense qu'on va avoir cette clé-là dans la saison 3. C'est qui a commandé ce meurtre? Parce que c'est un meurtre. Moi, j'aimerais juste qu'on revienne 30 secondes, on fait un rewind parce qu'on est comme ça ici.
Ouais.
Hein? Saison 1, la fin. Parce qu'on s'attend que dans la... Surtout la famille. Moi, cette fin-là m'a vraiment hanté longtemps, le jeune homme de la famille qui décide de partir avec... En bateau, là?
Oui.
Avec la gang de Maori qui sont là, puis d'aller vivre comme un natif. Aussi, la jeune fille qui découvre par le biais d'une romance d'été que la vie est pas simple quand t'es un autochtone.
Ben, que la vie est pas simple quand t'es un... Puis encore une fois, c'est une question de privilège.
Oui.
C'est toute la question des privilèges puis la question de l'intersectionnalité aussi qui est très abordée dans cette série-là.
Tout à fait.
Parce que t'as une personne qui agit d'une certaine façon, puis on l'aperçoit parce que oh ben c'est une jeune, puis elle c'est son amie à la gosse de riche, parce qu'on a parlé de la famille des quatre, mais ils sont accompagnés donc d'une cinquième personne.
Exactement.
Qui est une jeune fille racisée, puis qui dans le fond on a l'impression que c'est juste une dynamique de deux ados qui sont comme qui sont des ados ensemble.
Oui.
Puis là finalement on finit par comprendre que elle se perçoit la jeune fille dont le nom m'échappe, mais je vais le trouver. Brittany O'Grady qui joue Paula, ça se peut-tu?
Oui.
Voilà, exactement. Donc Paula, donc qui va nommer à son fling, à son petit flirt qui travaille au resort, qui va lui nommer qu'elle sait qu'elle est l'amie racisée de Olivia, parce que ça paraît bien d'avoir une amie black,
oui.
Alors qu'elle étudie, genre, je pense qu'on est à l'université, genre premières années d'université, puis que mm-hmm. là, elle est super gros dans une dynamique de genre, tu sais, comme...
Puis on s'entend, c'est l'université américaine, hein? C'est l'université que ça prend de l'argent pour y aller.
Exactement. Fait qu'elle apprend la même chose qu'on apprend, nous, à l'UQAM, mais elle l'apprend en n'ayant pas vécu la vie de la majorité des gens de l'UQAM.
Exact. Puis en fait, ce qui est troublant, c'est que tu te rends compte que les enfants de cette famille-là, sont rendus à un âge adolescent / jeunes adultes où ils commencent à jaser avec le monde sur le resort, justement, et commencent à comprendre que leur vie, c'est une affaire et la vie du reste du monde, c'est quelque chose d'autre.
Mm-hmm.
C'est comme un peu leur premier contact avec ce qui n'est pas leur classe sociale. T'sais, c'est des enfants qui ont probablement vécu dans l'opulence toute leur vie. Leur mère, c'est une businesswoman. Ils ont de l'argent et ils vont dans les grandes écoles. La jeune fille de la famille, son premier contact avec les classes, c'est quand elle a probablement rencontré des gens à son université, dont Paula, qui doivent un peu se battre économiquement pour être là.
Mm-hmm.
Alors que elle, ses parents payent et ça finit là. C'est très facile. Mm-hmm. L'université aux États-Unis, c'est beaucoup plus cher que l'université au Canada, on mm-hmm. va se le dire.
Ben oui.
Tu t'endettes beaucoup plus. Fait que, en fait, tu t'endettes pas. Si tes parents sont pas riches...
Tu y vas pas,
à moins d'aller à coup de scholarship puis de toujours te battre pour avoir des meilleures notes, pour avoir des bourses, pour être capable de rester là.
Exactement. Puis c'est ça. Puis c'est le fait que Paula donc va se retrouver dans des situations où est-ce que va nommer des choses par rapport à sa classe sociale, va nommer des choses par rapport au fait qu'elle est tokenisée parce que c'est une femme racisée, mais confrontée à son flirt, va agir selon une espèce d'ordre moral où est-ce que c'est « Est-ce que je garde ce que j'ai? Est-ce que je confronte avec ce que j'ai? » Ou comme pour « Est-ce que je le garde pour moi puis je protège mes arrières? » Ou est-ce que je fais la chose moralement acceptable ouais. de me Parce dénoncer?
C'est juste, tu deviens privilégié. Tu deviens le privilégié de quelqu'un d'autre pour la première fois dans ta vie.
Mm-hmm.
Et là, est-ce que je continue à avoir l'éthique de savoir que le privilège existe ou je deviens soudainement comme ma meilleure amie que quand j'y parle de mes affaires, elle fait « ouais ». Puis qu'elle comprend pas trop.
Mm-hmm.
C'est spécial de le voir de même.
Mais tu vois, c'est intéressant aussi parce qu'on n'arrête pas de parler de bateau. Puis là, ça vient de me rentrer dedans puis j'ai pas eu le temps de réfléchir à ça. Fait que je vais peut-être pas dire des affaires très intelligentes, mais il y a clairement quelque chose relié au bateau. Il y a trop d'affaires qui se passent avec des bateaux. Le fait que les gens arrivent en bateau, repartent en bateau, le fait que Tania meurt sur un bateau, en tombant d'un bateau,
oui.
Le fait que... puis qu'elle glisse, en fait, c'est tellement niaiseux.
Oui,
là.
C'est nono,
mais en même temps, elle essaie de se sauver là, à sa défense. Là, mm-hmm. elle, c'est juste que... Bref. Mais c'est un accident.
Oui, tout à fait.
Tu sais, dire que tu meurs d'un accident alors que t'étais à bout portant. T'sais.
Oui, c'est ça. C'était en train de te faire pourchasser. Quelqu'un voulait terminer ta vie et c'est toi qui l'as terminé toi-même par accident.
Et voilà. Mais c'est ça. Fait qu'il y a quelque chose vraiment relié à ça. Puis le fait que justement, le jeune qui va décider de partir en bateau, je trouve que quelque chose, puis là, il faudrait que j'aille lire mon livre du Dictionnaire des symboles là, que j'ai à la maison. Je vais aller lire là-dessus en revenant. Là, le Dictionnaire des symboles, là, excellent livre. Donc, si vous voulez... Ouais. Vous perdre dans des...
Ah oh boy, des heures et des heures. Hein?
Ah ouais, c'est une grosse brique, mais tu ne lis pas au complet. Là. Mais, tu sais, en tout cas, bref...
Non, tu passes d'un à l'autre parce que là, tu vois un symbole puis tu vas aller trouver l'autre symbole auquel ils font référence, puis machin truc, puis ouais.
Mais il y a clairement quelque chose relié au bateau, là. Mais ce qui m'avait fasciné dans la série aussi, c'est que... Puis je voulais faire un lien avec ce que tu avais dit plus tôt sur, tu sais, quand on est en vacances, on est une autre personne. Mm-hmm. Parce que je pense que la série nous laissait sous-entendre à plusieurs moments que... Les personnages étaient en train de vivre une évolution. Pas oui. nécessairement dans un bon sens, mais qu'ils étaient tous en train d'évoluer. C'est-à-dire oui. qu'ils étaient tous en train de s'élever au-dessus de ce qu'ils étaient avant. L'état change. Des fois, ça s'empire. Des fois, ils deviennent des moins bonnes personnes. Des fois, ils commettent des choses qu'ils se seraient pas permis puis qu'ils vont faire du mal aux autres. Mais t'as l'impression qu'ils vont évoluer. Puis, au final, quand les personnes se retrouvent sur le tarmac, ils sont... Les gens sont... à exactement le même point que quand oui. ils sont arrivés.
Oui, tout à fait.
Puis, je pense que c'est pour ça que le fait d'arrêter après 3 saisons, ça va sûrement leur servir parce que je crois que... À un moment donné, cette recette-là, elle pourrait devenir lassante.
C'est un concept très déprimant aussi. On va se le dire, c'est pas youpido lai lai.
Il y a des gens qui meurent puis les gens ils volent pas.
Tu sais, je veux dire, dans la deuxième saison, c'est très très flagrant. Tu sais, même si il y a des fins plus glorieuses que d'autres.
Ouais.
J'étais quand même très contente pour les deux jeunes filles qui vendent leur corps là.
Les travailleuses du sexe.
Oui.
Oui, mais c'est ça.
Ça prouve que c'est une profession qui mérite d'être. Découverte
puis,
autrement.
Puis je me demande si c'est pas, en fait, une façon d'excuser comment ils ont traité le personnage de, et là, je vais m'assurer d'avoir le bon nom, mais ce serait le personnage de Kai, dans le fond, qui est la personne autochtone qui travaille au resort. Je me demande si c'est pas une façon de s'excuser parce que lui n'aura vraiment pas une fin heureuse dans la saison 1.
Non, en effet, c'est... non.
Fait que d'avoir au moins les locaux qui ont des fins heureuses dans cette... les locaux qui sont pas des mafieux qui tuent du monde, là, mais je veux dire, les locaux... Mais quoi que même eux autres sont en vacances aussi. Là,
ils sont oui,
comme,
ils sont en vacances
ont une
aussi.
Villa pis tout, là.
On ne sait pas trop d'où ils débarquent, en fait, eux autres. Hein. C'est un peu...
C'est des Européens, là. Tu sais, comme il me semble qu'ils ont des gros accents Irish, là. Ou,
Ouais, mais ils sont en Italie, tu sais.
Ouais.
C'est
ils ont une villa, c'est à eux autres.
Ouais. C'est-tu vraiment eux autres?
Rendu là.
Hey, pour vrai, là, moi, je me suis posé 1000 questions. Là. Rendu là, j'étais comme, c'est-tu à eux? C'est-tu pas à eux?
Il y avait trop de photos de leur famille pour que ça soit pas à eux. Tu sais, genre, tu vas pas installer des photos de ta famille partout si t'es là pour une semaine. Surtout pas des photos qui t'incrimineraient.
Ouais, mais tu sais, c'était supposé être son neveu, le petit gars aussi, hein, pis c'était pas ça pantoute.
Ben, c'était pas son neveu?
Ben, c'était comme...
Ben, en tout cas...
Moi, je me suis dit, c'est une drôle de relation, on va se le dire.
Ben, moi, je l'ai interprété que c'était probablement son neveu, mais qui c'était juste quelqu'un de très sinful qui faisait ce qu'il voulait, là.
Ah, oh, moi, j'ai vraiment interprété comme c'est pas son neveu, pas en tout.
Ah, il faudrait que je le réécoute.
C'est une autre affaire. En tout cas, bref. Mais tu sais, on parle, mettons, c'est ça, des deux jeunes filles qui finissent par get away with everything.
Oui, oui, t'sais, oui.
J'ai trouvé ça particulièrement jouissif, tu sais, de se dire que la position la plus safe dans toute cette histoire, c'était d'être à l'argent en sachant très bien ce que tu veux et obtenir ce que tu veux.
Mm-hmm.
C'est une belle claque d'en face à tous ceux qui pensent que la vertu, ça paye tant que ça dans vie. Puis en même temps, c'est aussi une belle leçon sur le fait que d'assumer pleinement ce que t'es puis ce que tu fais, c'est peut-être plus payant que d'essayer de te draper dans la vertu.
Mm-hmm.
Hello Valentina, qui essaie de passer pour la personne la plus droite et toute de toute la vie, alors que dans le fond, elle a juste envie de... frencher la jeune fille avec qui elle travaille et c'est d'une tristesse infinie.
Oui, mais elle va quand même avoir une bonne fin aussi.
Oui, mais en même temps, je trouve ça vraiment intéressant qu'elle soit quasiment forcée de se réconcilier avec ce qu'elle déteste.
Mm-hmm.
Non seulement elle s'aime pas parce qu'elle est lesbienne, puis elle le sait, puis elle veut pas le dire, puis elle veut pas que ça se sache. Mais elle déteste ces prostituées-là qui sont dans son hôtel pour venir un peu racoler, puis qu'elle est comme, vous êtes pas supposé d'être là. Elle les traite vraiment comme de la marde. Et c'est avec une de ces filles-là qu'elle va vivre une expérience sensuelle et sexuelle qui va l'éveiller à elle-même encore plus. Tu fais, ouah! Tout ça est une très grosse loupe. Mm-hmm. Mais c'est franchement intéressant, tu sais, de... C'est ça, de se réconcilier avec ce qu'on pense qu'on n'aime pas parce qu'au final, on aime peut-être plus ça qu'on pense. Là,
je me pose des questions sur... Là, tu sais, je parle de... Tu sais, il y a quelque chose dans la symétrie, là, dans cette série-là.
Oui,
là,
vraiment, complètement.
Où il y a, mettons, justement, la question de symétrie entre le début et la fin de la saison, des saisons, puis d'une saison à l'autre. Tu sais, je me faisais... Vu que je les avais bingé, je me faisais vraiment un malin plaisir de me dire qui est le représentant de cette notion-là dans la saison 2 et tout ça. Puis le fait que les deux managers soient des personnes queer, je me suis demandé si there was a thing there.
Peut-être qu'il y avait une symétrie. En fait, t'as un manager queer qui s'assume complètement, puis t'en as une autre qui est complètement dans le placard.
Mais en tout cas, si le manager de la saison 3 est queer aussi, là, je vais me dire, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas
non,
de hasard.
Non, en effet. En effet.
J'avais un prof.
Ben, s'ils font... Parce que là, c'était quoi? L'idée avait été effleurée que ça serait peut-être en Thaïlande.
Ben, moi, ce que je lisais sur la page...
Ça sera peut-être une personne trans.
Ah!
J'aimerais beaucoup ça. Je serais très contente.
Mais tu vois, parce que dans la saison... Ce que ça disait, c'est que la saison 1, ça tournait autour de l'argent, que la saison 2... Que c'était comme un peu la pierre angulaire d'aller au bout de cette question-là sur l'argent. La saison 2, c'était par rapport à la sexualité. Mm-hmm. Puis que la saison 3, ce serait par rapport à la mort. On fait des liens avec le fait que tu penses qu'on va peut-être savoir ce qui s'est passé avec Tania, mais mm-hmm. Qu'on va aller au bout de cette affaire-là. Mais ce qui est intéressant aussi dans cette question-là, c'est qu'il dit que ça allait un peu réfléchir à la question de comment est-ce que des personnes occidentales peuvent se retrouver dans la question dans des questions orientalistes. Tu sais, tout le concept de l'orientalisme, oui. Où est-ce qu'ils vont aller là avec peut-être une perception d'ouvrir leurs horizons par rapport à la mort et
ouais,
tout ça.
Des espèces de... reconnexion spirituelle aussi. Mm-hmm. Tu sais, on s'entend, là, il y a beaucoup de personnes européennes et nord-américaines blanches qui adoptent
mais
des
qui vont
croyances.
Faire du syncrétisme,
oui,
ouais.
Qui vont adopter des croyances là, orientales à certains moments dans leur vie.
Sous prétexte que ça doit être mieux parce que c'est oriental.
Mm-hmm. Des fois, c'est pas mieux parce que c'est différent. C'est juste différent.
Ben oui, puis...
Mais bon, on va pas extrapoler sur qu'est-ce que c'est. On sait pas ce qui a été écrit. Mais tu sais, on parle de ça, puis je veux dire, j'ai fait un lien tantôt, puis j'en ai pas parlé, puis là, je vais en parler parce que, tu sais, l'Orient, les fleurs. White Lotus. Le Lotus, le Lotus, donc, c'est une... Pour les gens qui parlent pas l'anglais, c'était comme une semi-joke. Ça a pas rentré.
Okay.
ça a pas rentré. Des fois, elles sont pas bonnes. Donc, le Lotus, c'est une fleur qui pousse dans la boîte. Et qui doit pousser beaucoup, beaucoup dans la boîte avant d'émerger comme fleur. Puis peut-être qu'il y a quelque chose dans la symbolique de cette fleur-là,
ben,
dans la transformation, justement.
Ben, de se dire que cette beauté-là repose aussi sur, mettons, la souffrance d'autrui.
Oui.
Puis c'est sur le fait de, justement, que pour qu'on vous montre ce paradis-là, il faut qu'on vous cache tout ce qui ne marche pas.
Exact. Il y a beaucoup de parallèles à faire avec cette foutue fleur qui pousse dans la boue. Autre petit détail que je trouvais franchement intéressant, c'est la musique.
Oui.
Parce qu'on s'entend, le thème musical est décliné de deux façons d'une saison à l'autre. On va sûrement avoir une troisième version dans la saison 3.
Ben, c'est sûr, c'est sûr.
C'est certain. Les génériques de début sont très beaux aussi, d'ailleurs, visuellement. Fait que la musique vient appuyer ça, c'est extraordinaire. Et le concepteur du show a fait affaire avec un instrumentiste, un compositeur qui s'appelle Cristobal Tapia Devir, qui est un Québécois.
Ah ben, Colin! Il y a un petit peu de nous autres là-dedans.
Il y a un petit peu de nous autres là-dedans et qui a fait la musique, la très incroyable musique de Série Noire, entre autres. Qui est une musique qui m'a beaucoup marquée parce qu'elle est très efficace.
Ben oui.
Et avec la belle voix de Bernard de Rome, c'est extraordinaire, toute mm-hmm. cette série-là, torche. Et la musique, donc, de Cristobal Tapia Devir, de White Lotus, la commande du créateur, c'était « Anxiété tropicale ».
Mais c'est 100% ça.
C'est 100% ça.
C'est 100% ça.
Et le remix qu'il a fait pour la saison 2, c'est comme de l'anxiété européenne, là, parce qu'on se retrouve en Italie dans la saison 2. Là. C'est un peu plus orchestral dans la manière dont c'est décliné.
Mm-hmm.
Il y a moins de tropical, mais c'est le même pattern musical. C'est excessivement bien fait. Puis il y a même un peu de techno dance, là, c'est assez bien foutu. Le gars, c'est un bon musicien.
Ben oui, mais bravo à bravo.
Bravo Cristobal. Bravo Cristobal. Fier de toi.
J'ai quasiment envie d'aller l'écouter. Mais parle d'autre chose que t'as aimé de la série, puis je vais aller nous mettre une petite musique de fond.
Parle, Isabelle. Mon Dieu. Saison 2.
Hey, la madame, là, que ses enfants se passent. D'après moi, là, le père, c'est pas le père, hein?
Hey boy! Eux autres, c'était tout qu'un cas.
On n'a pas pour tout parler de ce couple-là, qui est quand même une pierre angulaire vraiment importante
oui,
aussi.
Oui, en fait, un foursome, deux couples qui décident de partir en vacances ensemble, un couple marié avec des enfants et un couple un peu plus neuf, littéralement la lune et le soleil, là. T'as un couple qui est lunaire, puis t'as un couple qui est solaire. Puis c'est ça, le solaire, on se rend compte que ça craque de partout, ce vernis-là. Puis la fille du couple qui est un peu plus lunaire, qui est jouée par Aubrey Plaza, qui pourrait pas être plus la lune. C'est fantastique.
C'est fantastique.
Et en fait, elle questionne beaucoup son conjoint, qui est comme ami. C'est les deux gars qui sont amis ensemble là, dans les couples. Et c'est des amis d'université.
Puis de ce qu'on comprend aussi, le chum d'Audrey Plaza vient de faire un bon coup d'argent.
Ouais.
Puis là, il y a cette espèce
de... Il a
changé de classe sociale, puis que là, son ami blanc... parce que
ouais, son ami blanc qui est visiblement riche de père en fils, puis lui qui est probablement un fils d'immigrant qui a bûché sa vie.
Il veut le convaincre, dans le fond, de parler de comment il a fait pour avoir de l'argent.
Exact. Puis il y a beaucoup de « t'es dans notre gang, mais dis-moi donc comment t'es arrivé dans notre gang. » Puis ce sous-entendu qu'il a toujours été supérieur, ce sous-entendu de tu sais, puis justement, sa blonde à ce gars-là qui est comme « laisse-toi pas faire par ton ami, prends position. » En même temps, sexuellement, entre les deux, il se passe rien. C'est aussi un problème. Puis dans l'autre couple, la sexualité a l'air de bien aller, mais on finit par se rendre compte que monsieur saute la clôture et peut-être madame aussi.
Mais non, c'est sûr que madame aussi.
Fait que
mais j'ai trouvé ça tellement brillant comment ils nous l'ont hinté.
C'était fantastique, pour vrai, là.
Quand il a dit « Ah, j'ai une photo de... » Tu sais, comme elle montre une photo... Elle veut montrer une photo de son entraîneur.
Oui.
Parce qu'elle décrit comme comment il est, que c'est un gars qui a les cheveux blancs, blanc soleil... et des yeux bleus, ce gars-là, puis qu'elle montre une photo, puis là, elle dit « C'est tes enfants », puis qu'on voit que c'est des enfants.
Ses enfants super blonds.
Super blonds, aux yeux bleus.
Aux yeux bleus.
Puis on est comme « Oh, shit ». Fait que cette personne-là, qui, dans le fond, a l'air de très bien aller dans son couple, mais qui dans le fond, fait une espèce d'aveuglement volontaire sur « Moi, je suis dans une certaine situation privilégiée dans ce couple-là », je pose pas de questions, je fais ce que je veux, puis je continue à être le plus agréable possible pour m'assurer d'avoir tout ce que je veux, puis juste comme surfer la vague, mais qui a pas l'air du tout, contrairement à Rachel de la saison 1,
oui.
qui voulait pas de cette situation-là.
Non, elle, ça va, mais la position qu'elle va prendre au final, ça reste quand même le déni.
Uh-huh.
Puis c'est intéressant parce que souvent dans les œuvres, on a tendance à avoir des personnages qui sont dans cette position-là et qui ont une espèce de cruel réalisme à propos de tout ça, puis qui sont un peu amers, puis qui finissent par s'ouvrir à un moment donné sur « ça se passe pas comme je voudrais », etc., etc. Elle est juste dans une espèce de déni. À un moment donné, elle craque à peine.
Ouais.
Et le lendemain, c'est fini. C'est comme... 1950 kind of style, un peu.
Ouais.
En tout cas, moi, j'ai trouvé ça ancien comme mentalité parce que, je veux dire, aujourd'hui, dans tout ce qui est, aventure extra-conjugale et ce genre de choses, tous les discours sont plus opprimés. Des gens qui sont très libérés à propos du fait que ils voient d'autres mondes, mais ils ont un couple exclusif. Je veux dire, il y a plusieurs réalités même qui se déclinent dans l'acceptation de cette affaire-là.
Dans la non-monogamie.
Dans la non-monogamie, exact. Ouais. Puis quelque chose qui est comme accepté et célébré. Puis elle est dans quelque chose qui est quand même assez...
Ben, c'est les apparences.
C'est vraiment les apparences. J'avais l'impression de voir un vieux film français, 1950. Là. Mais qu'une femme trompée qui est comme, je sais très bien que c'est ça qui se passe, mais j'en parle pas, puis tout est beau.
Là, c'est sûr qu'on a dit beaucoup de choses parce qu'on a cité un peu la table aussi. On a nommé... Moi, je pourrais continuer d'en parler pendant encore des heures. Malheureusement, il nous reste que 5 minutes. Et je pense que ce serait intéressant de voir, mettons, moi, j'aime bien finir les épisodes comme ça avec nos recommandations pour la 3e saison. Tu sais, au cas où Cristobal nous écoute puis qu'il passe le mot, là.
Ah, oh, tellement, Cristobal.
Mais c'est ça. D'après toi, qu'est-ce qu'on devrait souhaiter pour la 3e saison qui va arriver d'ici la fin de l'année, donc?
Le fantôme de Tania.
J'ai de la misère à croire qu'on la verra pas en toute.
Moi aussi, j'ai de la misère à croire ça. J'ai de la misère à croire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va aller honorer sa mémoire, peut-être.
Peut-être son assistante.
Je me suis demandé, parce qu'en plus, le personnage est le fun aussi, là.
Oui, oui, oui.
Puis la fille est chouette. Fait que la comédienne, là, je l'aime beaucoup. Fait que j'aimerais bien revoir ce bonhomme-là. Je serais vraiment contente.
Mais en plus qu'elle est un peu consciente qu'elle a échappé à la mort et qu'elle était un petit peu déjà dans une espèce de vibe, genre... de vibing, là, justement.
Ouais.
Moi, je la verrais faire un pèlerinage en Thaïlande pour comme renouer avec sa spiritualité.
Clairement, le genre de fille qui pourrait partir
après
backpack
trauma.
En décidant d'aller... Tu sais, peut-être que Tania avait un testament où elle lui léguait des trucs aussi, on sait pas, tu sais. Parce qu'on s'entend que pour aller dans les chaînes de White Lotus, faut quand même de l'argent. Fait qu'il faudrait qu'elle gagne de l'argent. Comment cet argent-là pourrait y être arrivé dans les mains. Moi, je trouverais ça vraiment le fun de la revoir. Ce qui est fun avec White Lotus, c'est que ça écorche un peu le blanc.
Ben, en fait,
moyen.
Non, 100%, c'est vraiment une critique de la blanchité.
C'est vraiment une critique de la blanchité. Fait que j'ai bien hâte de voir quelle espèce de prof de yoga qui vont nous envoyer dans des univers spirituels, ésotériques, pour renouer avec leur eux-mêmes. Là. Ça risque d'être assez savoureux. Je peux pas oser imaginer qu'on parlerait pas d'appropriation culturelle aussi rendu là, surtout quand on va dans les termes spirituels, parce que ça reste encore un domaine où les gens sont très outrés quand on dit que leur spiritualité est appropriée culturellement. C'est encore quelque chose qui est très touché à dire à des personnes. Puis que c'est pas nécessairement obvious tant que ça, parce que c'est vrai qu'on joue dans des zones très sentimentales
et
émotives.
Je comprends ce que ça veut dire, ouais.
Fait que, tu sais, j'espère qu'ils vont aller là, sérieux, j'aimerais ça. Et aussi des close-ups d'animaux sauvages, moi j'aime tout le temps ça.
Ah oui.
En ce moment, j'écoute Survivor, j'adore ça. Il y a des close-ups de petits serpents toutes les 30 secondes.
Ben, moi, j'adore les serpents. Je connais des gens qui n'aiment pas les serpents, qui n'aimeront pas ça, mais moi, j'adore les serpents.
Moi, j'aimerais ça aussi. Peut-être, tu sais, tant qu'à être là-bas, je sais pas, là, en Thaïlande,
un rave.
C'est ce genre de place où ils exploitent des éléphants, ça pourrait être...
Ouais.
Je sais pas.
OK, oui. Un party, tu sais, les moon, les full moon party.
Oh mon Dieu, oui.
Ouais.
Oh, wow. Ça serait fantastique.
Fait qu'on va sûrement avoir aussi un couple qui veut le renouer ou quelque chose comme ça.
Ouais, un couple beaucoup trop jeune pour avoir autant de problèmes de couple.
Mm-hmm.
Tu te dis, my God, c'est ça là, ça va être quoi dans 10 ans?
Puis écoute, un des personnages que j'ai le plus haï de la saison 2, c'est le fils de... Ah, ça me gosse, là.
Oh, le fiston, ah oh, oui! Parce qu'il y a quand même un grand-père, un père et un fils qui sont en voyage pour retrouver de la famille italienne. Là, ils ont plus rien d'italien, ni un ni l'autre.
Oui,
là,
oui,
ils
oui.
sont full américanisés. Puis le jeune, il essaye de se faire croire qu'il est donc plus woke avec les femmes que son père et son grand-père.
Albi.
Alors que, e-boy!
Albi. Ah, c'était le pire personnage. Puis il y a un personnage qui représente, je trouve, la toxicité, la masculinité toxique, en fait, de façon très éhontée. Shane, dans la saison 1, représentait
ah,
ça.
Ah, mon Dieu, oui.
Albi, qui au départ nous paraît comme un gars, comme justement, qui veut comme justement protéger la vertu, puis qui va critiquer, en fait, qui va se prononcer comme plus vertueux que son père et son grand-père, qui finalement va s'avérer à être
pas mal
un sale incel, ouais. Genre
pas mal la pomme qui est tombée à côté de Starbla, on va se le dire.
Puis voilà, fait que je sais pas comment la masculinité toxique va se refléter dans la saison 3.
Et c'est drôle qu'on en parle genre comme deux minutes avant la fin, garoché sur le bord d'une table. À quel point on est aux Amazones, mesdames et messieurs, on parle même pas des personnages masculins toxiques.
Ben, on n'avait pas le temps.
On n'avait pas le temps.
On avait parlé des bateaux, puis de la symbolique des bateaux, là.
La symbolique des bateaux, fallait pas passer à côté.
Mais la symbolique du lotus, je suis vraiment contente que tu me l'aies dit, parce que je ne suis pas très connaisseur en flore, là, donc là, ça... Tout ça a bien du sens.
Dans beaucoup de traditions orientales, là, par définition, le lotus, c'est exprimé comme, c'est ça, la fleur qui métamorphose. Fait qu'il y a beaucoup de métaphores de métamorphose dans plusieurs sphères de plusieurs traditions orientales où le lotus est présent bord en bord.
Ben là, tu me dis tout ça, je vais aller réécouter la série, puis là, on va se revoir pour parler de la saison 3. Ça va être tout dans notre tête, puis on va avoir tout le temps pour en parler. Fait que merci beaucoup, Isa, d'être venue.
C'était le fun, encore une fois. Quelle belle date.
Ben oui, puis on se retrouve donc pour la prochaine saison des Amazones qui commence sous peu.